Chapitre 2. Les soins de Dieu pour ses agneaux. Dans un langage touchant, comme un berger il paîtra son troupeau, par son bras il rassemblera les agneaux et les portera dans son sein. Ésaïe 40, verset 11. Le prophète Ésaïe compare le peuple de Dieu à un troupeau que Dieu se plaît à nourrir. En outre, il rassemble par son bras puissant et chéri dans son cœur d'amour les agneaux du troupeau, particulièrement susceptibles d'être dispersés par l'ennemi. Ce chapitre présente ses soins spéciaux pour les agneaux. Nous y voyons la manière douce et pleine de grâce dont Dieu s'occupe de ses jeunes convertis, afin qu'ils puissent marcher d'une manière digne de celui qui les a appelés à son propre royaume et à sa propre gloire. Verset 12. Le loup peut chercher à disperser les agneaux, mais le grand berger des brebis les rassemblera par son bras protecteur. L'ennemi peut chercher à consommer leurs ruines, mais le berger les portera et finira par les amener à la gloire. Les 12 premiers versets de ce chapitre 2 mettent en avant ces soins d'amour exercés par le moyen de l'apôtre. La dernière partie du chapitre place devant nous les résultats bénis de ces soins, vus dans les caractères chrétiens manifestés par ces jeunes croyants. Versets 1 à 5. La grâce de l'apôtre envers les pécheurs. Citation de l'Écriture. Car vous-même, vous savez, frères, que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine. Mais, après avoir auparavant souffert et avoir été outragés à Philippe, comme vous le savez, nous avons eu toute hardiesse en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu avec beaucoup de combats. Car notre exhortation n'a eu pour principe ni séduction, ni impureté, et nous n'y avons pas usé de ruse. Mais comme nous avons été approuvés de Dieu pour que l'évangile nous fût confié, nous parlons ainsi, non comme plaisant aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Car aussi nous n'avons jamais usé de paroles de flatterie, comme vous le savez, ni de prétexte de cupidité. Dieu en est témoin. Fin de citation. Pour rappeler aux croyants de Thessalonique la grâce de Dieu en leur faveur, l'apôtre parle d'abord de son entrée au milieu d'eux comme pécheurs, versets 1 à 5, puis de sa douceur envers eux comme jeunes convertis, comme une nourrice chérit ses enfants, versets 6 à 9, et enfin de sa fidélité envers eux, comme un père s'occupe de ses enfants. Versets 10 à 12. Versets 1 et 2. Juifs religieux ou païens idolâtres, ils étaient des pécheurs qui avaient besoin d'un sauveur, et c'est comme tel que l'apôtre était venu à eux avec toute hardiesse. C'était d'autant plus frappant si l'on considère que l'apôtre et ses compagnons venaient de Philippe, où, à la suite de la proclamation de l'Évangile, ils avaient souffert persécution et insultes. Leur souffrance n'avait soulevé aucun ressentiment, ni ne les avait rendus réticents à proclamer publiquement la vérité, selon ce qu'aurait suggéré la prudence naturelle. Au contraire, l'apôtre peut dire « Après avoir auparavant souffert et avoir été outragé, nous avons eu toute hardiesse en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu. » Ce n'était cependant pas la hardiesse de la nature qui dégénère souvent en agressivité charnelle. C'était la hardiesse en notre Dieu. Le serviteur avait ainsi suivi les pas de son maître qui, quand ses ennemis prirent des pierres pour le lapider, passa outre tranquillement et continua à dispenser la grâce. Aucune violence de l'homme ne pouvait provoquer un quelconque ressentiment de sa part, ni tarir sa grâce. De plus, la prédication de l'apôtre avait aussi été avec beaucoup de combats. Ce n'était pas de la contestation charnelle qui ne fait que provoquer la chair, mais avec le désir sincère qui s'efforce de gagner l'âme. Versets 3 à 5. En outre, s'il était venu à eux avec une hardiesse extérieure, celle-ci s'accompagnait de pureté intérieure. Si la manière était hardie, les motifs étaient purs. Il n'y avait rien ni chez le prédicateur, ni dans la prédication qui trompait les hommes. Ce n'était pas avec séduction que Paul prêchait. Sa prédication n'était ni avec de l'impureté qui flatte les convoitises des hommes, ni avec la ruse qui cache la vérité. Ses motifs étant purs, il n'y avait rien dans la prédication qui cherchait à plaire à l'homme comme homme ou qui cherchait l'approbation de l'homme par des paroles de flatterie. L'apôtre n'avait pas non plus utilisé sa prédication pour gagner quoi que ce soit de l'homme, se servant de la prédication à des fins de cupidité. Au contraire, l'évangile que Paul prêchait, au lieu de séduire, ouvrait les yeux des hommes à leur véritable condition, les réprimandait quant à leur péché, leur disait la vérité, même si cette vérité était ni agréable ni flatteuse pour la chair. si l'Évangile apporte une bénédiction infinie à l'homme, il n'est pas un moyen pour extirper un gain de l'homme ou pour en tirer un salaire. De plus, l'apôtre pouvait parler avec une telle intégrité de conscience qu'il pouvait faire appel à Dieu qui éprouve les cœurs pour témoigner de la vérité de ce qu'il disait. Versets 6 à 12. Les soins d'amour de l'apôtre pour les jeunes convertis. Citation de l'Écriture. Et nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de votre part, ni de la part des autres, quand nous aurions pu vous être à charge comme apôtres de Christ. Mais nous avons été doux au milieu de vous. Comme une nourrice chérit ses propres enfants, ainsi, vous étant tendrement affectionnés, nous aurions été tout disposés à vous communiquer non seulement l'Évangile de Dieu, mais aussi nos propres vies, parce que vous nous étiez devenus fort chers. Car vous vous souvenez, frères, de notre peine et de notre labeur. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous que nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous-même, vous êtes témoins, et Dieu aussi, combien nous nous sommes conduits saintement et justement et irréprochablement vers vous qui croyez, ainsi que vous savez comment nous avons exhorté chacun de vous comme un père ses propres enfants, vous exhortant et vous consolant et rendant témoignage pour que vous marchiez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. Fin de citation. Si les versets 3 à 5 nous ont parlé de la pureté des motifs avec lesquels l'apôtre prêchait aux pécheurs, les versets qui suivent parlent de l'affection du cœur qu'il animait pour prendre soin des jeunes convertis. Versets 6 à 9. Ce n'était pas de l'égoïsme avec recherche d'un gain personnel qui animait l'apôtre, mais plutôt l'Esprit de Christ qui, s'oubliant lui-même, servait les autres dans l'amour. Il n'était pas animé par le moi qui cherche les applaudissements des autres ou sa propre gloire. Il ne cherchait pas de gloire venant des hommes et ne voulait rien prendre des saints, même s'il en avait le droit. Il était animé par l'amour qui cherche seulement le bien des autres. L'amour qui ne recherche pas quelque chose de la part des autres, mais qui donne aux autres. L'amour qui était doux au milieu d'eux, comme une nourrice chérit ses enfants. L'amour qui était prêt à donner sa vie même pour eux. L'amour qui travaillait jour et nuit afin de les servir sans leur être à charge. Versets 10 à 11. En outre, si l'apôtre avait été doux comme une nourrice, il les avait aussi fidèlement exhortés comme un père ses propres enfants. Exhorter, c'est appeler à une marche fidèle et sainte, et telle avait été la marche de l'apôtre de sorte qu'il peut les appeler à témoigner, et Dieu avec eux, qu'il avait vécu parmi ses croyants saintement, justement et irréprochablement. Verset 12. En vivant une telle vie, il avait pu avec puissance spirituelle exhorter, consoler et appeler d'autres à marcher eux aussi d'une manière digne de Dieu qui nous a appelés à son propre royaume et à sa propre gloire. Le monde estime que c'est un honneur d'être associé à ceux qui sont haut placés dans les royaumes de ce monde et dans leur gloire. Mais combien plus grand le privilège d'être associé à ceux qui sont appelés au royaume et à la gloire de Dieu. Il est bien plus glorieux d'être joint avec ceux qui vont s'asseoir sur des trônes de jugement dans le royaume de Christ, même s'ils ne sont ici-bas que des pêcheurs de poissons ignorants et illettrés, que d'être associé avec le plus grand potentat de ce monde qui passe. Ceux qui appartiennent au Seigneur peuvent être bien pauvres. Mais Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Jacques 2, verset 5. Dieu voudrait que nous regardions au-delà de ce monde et de tous ses honneurs vides et que nous nous souvenions de la haute dignité qu'il nous a conférée en nous appelant à son propre royaume et à sa propre gloire et, pendant que nous traversons la scène de ce monde, Dieu voudrait que nous marchions et que nous nous comportions de manière conséquente avec notre position d'héritier de la gloire à venir. Versets 13 à 20. Les fruits des soins de l'apôtre. Citation de l'Écriture. Et c'est pourquoi aussi nous, nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que, ayant reçu de nous la parole de la prédication qui est de Dieu, vous avez accepté, non la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, la parole de Dieu, laquelle aussi opère en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées de Dieu qui sont dans la Judée, dans le Christ Jésus. Car vous aussi, Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes choses qu'elles aussi ont souffertes de la part des Juifs, qui ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes, et qui nous ont chassés par la persécution, et qui ne plaisent pas à Dieu, et qui sont opposés à tous les hommes, nous empêchant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvées, pour combler toujours la mesure de leurs péchés. Mais la colère est venue sur eux au dernier terme. Or, pour nous, frères, ayant été séparés de vous pour un temps, de visage et non de cœur, nous avons d'autant plus, avec un fort grand désir, cherché à voir votre visage. C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous, moi, Paul, et une fois, et deux fois, et Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou la couronne dont nous nous glorifions? N'est-ce pas bien vous, devant notre Seigneur Jésus à sa venue? Car vous, vous êtes notre gloire et notre joie. Fin de citation. Dans la dernière partie du chapitre, nous voyons les beaux fruits de ce ministère de grâce, de douceur et de fidélité. Il a placé cette compagnie de croyants dans le chemin de la foi, versets 13 à 16. Il les a introduits dans le cercle de l'amour, versets 17 et 18, et leur a donné l'espérance sûre et certaine de la gloire à venir, versets 19 et 20. Verset 13. D'abord, l'apôtre peut remercier Dieu de ce que la foi de ses croyants a été établie sur le solide fondement de la parole de Dieu. La foi est en Christ, mais l'autorité sur laquelle nous nous basons pour croire en Christ n'est pas la parole d'un docteur, si doué soit-il, mais c'est la parole de Dieu. La preuve de l'autorité divine de la parole est qu'elle opère efficacement en ceux qui croient. La parole de Dieu atteint la conscience d'une manière qu'une simple parole de l'homme ne peut pas faire. Elle détourne l'âme des idoles et la tourne vers Dieu et y produit les grands principes du christianisme, la foi, l'amour et l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Versets 14 à 16. En outre, la parole de Dieu opérant efficacement dans ces jeunes croyants les avait aussi conduits à s'identifier de tout cœur avec le peuple de Dieu. Ils étaient devenus imitateurs des assemblées de Dieu qui, en Judée, étaient dans le Christ Jésus. Non seulement ils partageaient avec elles les privilèges qui sont dans le Christ Jésus, mais ils étaient aussi devenus leurs compagnons dans les souffrances pour Christ. Les croyants de Thessalonique avaient souffert de leurs propres compatriotes, tout comme les assemblées de Judée avaient souffert de la part des Juifs. Mais même ainsi, l'opposition des nations païennes avait été fomentée par la haine meurtrière des Juifs. La nation juive avait non seulement rejeté les prophètes et tué leur propre Messie, et rejeté ainsi toutes les offres de la grâce pour elle-même, mais ils avaient comblé la coupe de leur culpabilité en cherchant à empêcher la grâce de Dieu d'aller vers les nations. Cet effort pour empêcher que la grâce de Dieu soit prêchée aux nations avait atteint son comble dans leur persécution de Paul, l'apôtre des nations. Il ne plaisait pas à Dieu et était opposé à tous les hommes, amenant ainsi la colère sur eux-mêmes au dernier degré. Verset 17. Mais si d'un côté, en adoptant le chemin de la foi, ces jeunes convertis avaient dû goûter un peu de souffrance de la part de leurs compatriotes, d'un autre côté, ils avaient joui de l'amour et de la communion dans le nouveau cercle où le christianisme les avait introduits. Ils étaient liés ensemble de cœur avec le peuple du Seigneur. Les saints peuvent être privés pour un temps, par leurs circonstances, de la compagnie les uns des autres et en être séparés pour un petit moment, mais, dit l'apôtre, ils ne sont pas séparés de cœur. Nous sommes liés ensemble par des liens aussi éternels que ceux de l'amour qui nous lie. Verset 18. L'expression pratique de cette communion des saints implique la naissance de conflits, car l'un des grands buts de Satan est d'en empêcher l'expression. L'apôtre peut ainsi dire « Nous avons voulu aller vers vous, moi Paul, et une fois et deux fois, et Satan nous en a empêchés. » Le Seigneur n'aurait-il pas pu contrecarrer les efforts de Satan? Sans doute il le pouvait, et il le fait quand c'est en accord avec ses voies. Il foulera bientôt Satan sous ses pieds, bien qu'à l'heure actuelle, il puisse utiliser Satan comme un instrument pour éprouver les siens. Si le Seigneur avait empêché Satan, les saints auraient manqué la bénédiction qui a résulté de l'épreuve de leur foi. Versets 19 et 20. Enfin, nous apprenons que le cercle d'amour où nous nous trouvons sur la terre avec ses épreuves prépare à la présence du Seigneur à sa venue. Cela conduit l'apôtre à faire référence à notre espérance. Le ministère de l'apôtre a ainsi eu pour effet béni d'introduire ses croyants des nations dans un nouveau cercle marqué par la foi en la parole de Dieu, verset 13, par l'amour les uns pour les autres, verset 17, et par l'espérance en la venue du Seigneur Jésus, verset 19. Le Seigneur est le vrai centre de rassemblement des siens, celui qui attire nos affections à lui et qui unit ainsi nos cœurs les uns aux autres. Dans sa présence, à sa venue, nous jouirons de la communion les uns avec les autres dans une joie commune dans le Seigneur, là où aucune puissance de Satan ne peut pénétrer.